c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Bonjour à tous nos amis fidèles à la petite histoire de la grande aviation. Je vous ai annoncé la dernière fois une expérience intéressante pour le quotidien des Français avec le concours du Caudron Simoun. Nous avons vu combien la période de développement d'avant la Deuxième Guerre mondiale s'est révélée une véritable incitation et même une provocation pour ceux qui découvraient l'aviation et son potentiel. Une compétition pour aller plus vite, plus haut et plus loin. Caudron, disons en fait les Caudrons, ont largement participé à cette expansion, notamment avec le Simoun, mais aussi avec bien d'autres. Mais la gamme du constructeur n'est pas mon propos ici. Elle en mérite pourtant une longue chronique, notamment au chapitre de la vitesse. Le Simoun s'est révélé un avion tout à fait adapté à cette recherche d'exploit. Mais c'était avant tout un avion moderne, même luxueux, je l'ai déjà dit, aux possibilités nombreuses. En fait, c'était un avion de tourisme, disons même un avion de grand tourisme. Et le développement de l'aviation légère passait évidemment par la demande du public et par le désir de faciliter la circulation rapide du courrier sur le territoire et pourquoi pas la perspective d'un avion taxi. Lors des meetings, il y avait beaucoup de demandes de baptême, c'est-à-dire un court vol à proximité de l'aérodrome. C'est une découverte, mais on était encore dans le tourisme et le loisir. Pour provoquer une demande plus forte et soutenue, il fallait une démonstration de l'aspect pratique d'un déplacement de ville à ville, quasiment à la demande, exploitant la vitesse possible largement supérieure à celle de l'automobile et du train. En France, au milieu des années 1930, ce qui avait été l'aéropostale, après la Société des lignes ATECOER, puis regroupée dans une entité, la CELA, S-C-E-L-A, vite absorbée par Air France naissante, tout ça avait mis en évidence la solution aérienne pour la circulation du courrier postal entre villes éloignées en Europe et en Afrique, sans oublier l'Amérique du Sud. La solution identique pour le courrier entre les villes françaises, à la façon d'une tournée, était évidente et nécessaire. La Lufthansa et les Anglais avaient déjà créé leur propre service. Alors, et les décisions des gouvernements d'inciter et de favoriser, voire imposer, la création de compagnies nationales ou privées, allaient bien dans ce sens. Mais restait à trouver également des formules plus souples pour les déplacements à la demande. Pour une compagnie de dimension déjà importante, adopter un tel format n'est pas vraiment compatible avec ses investissements et son organisation et fait craindre des difficultés de rentabilité ou même simplement d'équilibre. En revanche, créer ce type d'entreprise avec des avions plus modernes et des personnels et pilotes gérés de façon plus adaptée donnait des idées à certains. En même temps, les regroupements de la plupart des sociétés créées les années précédentes avait laissé sur le carreau de nombreux personnels, créé des rancœurs et des désirs de revanche ou simplement donné des idées à des entrepreneurs. C'est ainsi que s'est créé Air Bleu en 1935. Et lorsque je parle de revanche, de rancœur ou tout simplement de compétences, après avoir évoqué l'aérospatial, c'est tout simplement sur l'initiative d'un certain Didier Dora, qui n'est pas présenté, que Beppo de Massini a créé cette société. C'est un ami de Pierre-Georges Artécoère et son bras droit dès le début de l'aéropostale. On n'a pas à présenter ces hommes, évidemment. Dora et Beppo de Massimi travaillaient ensemble et se connaissaient bien, et depuis longtemps. Dora avait été intégré dans les structures d'Air France à la création de l'entreprise, peut-être malgré tout parce que son tanné caractère faisait peur à tout le monde. Il va être envoyé en mission dans plusieurs pays, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Il a beaucoup appris de ce qui était fait en matière d'acheminement du courrier dans ces pays. Aux États-Unis, il a retenu l'importance de l'instrumentation de précision et de qualité en appréciant l'installation et la disposition des tableaux de bord dans les avions américains. Rentré en France, il a plaidé auprès d'Air France la mise en place d'une structure d'avion postal. Sans doute, la plaidoirie façon Dora n'a pas convaincu. Dora et Beppo de Massimi partent en recherche de l'avion adéquat et sollicitent l'aide de Renault, Celui-ci entrevoit l'intérêt commercial et publicitaire qu'il pourrait en retirer et parle tout naturellement de Caudron. Lors de leur visite à l'usine où ils sont reçus par René Caudron et Louis Riffard, ils examinent les possibilités parmi les modèles de la firme et sont séduits par le Simoon. Ses caractéristiques de vitesse, de rayon d'action, de charge utile correspondent tout à fait aux besoins pour l'exploitation. Ils n'écartent pas pour autant la possibilité d'autres avions de la gamme dans un deuxième temps. On reparlera plus tard du Goéland. Bien sûr, Caudron se chargerait de l'adaptation et l'aménagement de l'avion à cet usage particulier, notamment le vol de nuit, les éclairages, le dégivrage et toute l'instrumentation nécessaire à la navigation et à la radio. Sur ce point, les instructions et l'expérience américaine de Dora vont s'imposer à l'avionneur. Des modifications de vitrage et portes d'accès seront à effectuer également pour améliorer la visibilité pour le pilote. Marcel Riffard, comprenant les besoins de la nouvelle entreprise entre la fiabilité, la puissance, l'entretien et la consommation, préconise, parmi les moteurs de la nouvelle génération Sisqu, le Sisqu 07 de 180 chevaux, plutôt que le Sisqu 01 20% plus puissant mais moins économique. L'objectif d'Air Bleu est d'acheminer le courrier partout en France en 24 heures maximum. Bien entendu, la complémentarité avec le courrier international arrivé sur les lignes aériennes internationales en grand développement à cette période était évidente. Les avions sur le territoire français doivent donc procéder par tournée et étapes relativement courtes. C'est ainsi que 4 lignes seront d'abord créées à partir du Bourget, le Bourget Arras-Lille, le Bourget-Rouen-Le Havre, le Bourget-Tours-Poitiers, Angoulême et Bordeaux, le Bourget-Nancy-Strasbourg. Elles seront complétées par 2 autres lignes quelques semaines plus tard, le Bourget-Le Mans-Angers-Nantes-La Baule et le Bourget-Limoges-Toulouse d'abord. Encore plus tard, une 7e ligne va relier le Bourget à Clermont-Ferrand avec escale à Vichy. Ces différentes villes-escales nous apparaissent proches les unes des autres, sans doute aujourd'hui. Mais le Simoon mettait moins d'une heure pour relier des villes distantes de 200 km. À cette époque, avec des routes disponibles selon leur état, il fallait compter 4 fois plus de temps. Des pilotes, évidemment, vont devoir être embauchés, comme Raymond Vanier, ancien aéropostal et qui sera le chef d'exploitation, patron des navigants et fidèle de Dora ou de Georges Libert, grand spécialiste du vol sans visibilité et qui s'était mis en évidence dans la croisière noire dont il était le plus jeune participant. On l'avait vu également lors d'un raid avec Denis vers le Tonkin. Tout est mis en œuvre dans l'optique de la régularité. Petite parenthèse concernant Georges Libert. Entre 2 tentatives de Marcel Doré, ce Georges Libert s'était mis en évidence lors de la croisière noire. Je précise, la croisière aérienne du général Villemain, organisée en réplique aérienne de celle, la jaune, des véhicules terrestres de Citroën. Cette croisière mettait en œuvre une 20aine de Potez 25. Libert avait d'ailleurs reçu le titre de Benjamin de la croisière et était âgé à ce moment de 24 ans. Il fera une longue et brillante carrière et même agitée carrière dans l'aviation. Entré chez Air France après la guerre, ce pionnier aura pu piloter en fin d'activité un Super Constellation et même un Boeing 707. Il s'était laissé tenter par la route vers le Tonkin et s'était associé pour ce raid à Gilbert Denis, un militaire qui avait acquis un Simoon spécialement aménagé pour de longs raids. Ils rallieront le Tonkin et dans des temps records en cours sur des destinations voisines. Immatriculation ANXN, c'est-à-dire X-Ray November. Je reviens donc à Air Bleu. Les différents accords ont été pris avec l'aide de Louis Renault, qui est acquise, et ce Louis Renault intègre le conseil d'administration dont il est principal actionnaire au titre de Caudron. Une commande ferme de 6 avions avec une option de 4 supplémentaires est passée. Et l'homme politique Georges Mandel, alors ministre des PTT du gouvernement de Georges Clemenceau, remet symboliquement le 10 juillet 1935 la première lettre confiée aux soins d'Air Bleu. Je pense intéressant de vous éclairer sur le nom d'Air Bleu donné à cette entreprise. Cette référence à la couleur bleue tient à la pratique très en cours des petits bleus. C'est le surnom affectueux qui est donné aux pneumatiques, moyen de communication par réseau spécifique, relié entre plusieurs destinataires tels que bureaux de poste, ministères et certaines entreprises. Des cylindres chargés de missives, bleus évidemment, circulaient dans un réseau de tubes où s'exerçaient alternativement haute et basse pression. Techniquement, l'entreprise Airbleu fonctionne parfaitement et la régularité est démontrée. Elle est rémunérée par une surtaxe dite « surtaxe aviation ». C'est une surtaxe de 3 francs par 5 grammes. Une fois l'engouement passé, le recours à ce service se fait plus modéré. Le désir de beaucoup serait d'avoir, après le transport rapide, le tri et la distribution organisée, d'avoir donc le courrier dès le lendemain matin, notamment pour les chefs d'entreprise. Ne perdons pas de vue que le service postal est le système quasi exclusif de communication entre les personnes distantes. La solution serait alors d'organiser une postale de nuit tout au long du traitement du courrier. Il faudrait alors multiplier les vols de nuit et les organiser. Mais la plus grande partie de la navigation se fait à vue. On part ainsi sur la création d'un réseau de phares, comme dans la marine. On est alors dans une autre surtaxe pour avoir recours à des avions plus gros et faire face à l'augmentation du poids. Airbleu utilise le caudron goéland, bimoteur mettant en œuvre les mêmes moteurs Siskiyou. Mais malgré un renflouement par le gouvernement, Airbleu n'a pas les moyens. Et il faut donc une intervention de l'État, notamment pour les infrastructures. Alors la petite compagnie est intégrée à Air France, qui est entrée au capital pour 24%, l'État participant lui-même à 52%. La proximité de la déclaration et de la Seconde Guerre mondiale mettra forcément en sommeil cette postale de nuit pour une renaissance ultérieure. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Altitude.